Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs, c'est Anthony et comme d'habitude c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, là moi j'ai la pêche, ça fait plaisir, j'espère que je vous ai pas trop manqué, ça fait encore 2 semaines que je vous ai abandonné. Mais bon là cette fois-ci ça s'explique par une autre explication. Alors j'ai eu ma petite fille mais bon, je suis expatrié entre guillemets, je suis loin de ma famille et il a fallu aller la présenter. Donc je suis remonté 2 semaines dans le nord, donc 2 semaines où j'avais pas mon matos et en plus ça a été 2 semaines hyper chargées. Franchement c'est 2 semaines, je suis rincé. Mais voilà, ça fait plaisir. Mais ça a été un retour assez productif parce que, on va passer toutes les visites chez la famille, hein, mais toutes les visites immobilières que j'ai faites, ça a apporté ses fruits parce que sur 2 semaines, j'en ai enchaîné une. Franchement, sur 2 semaines, j'ai dû en enchaîner peut-être une bonne vingtaine, voire même 30. Franchement, j'ai vraiment charbonné, je suis parti voir même des choses que d'habitude, je n'irais pas voir spécialement. Je suis parti visiter. Et on ressort que je signe là pour un immeuble de rapport de 2 logements. Je signe également pour un petit appartement au rez-de-chaussée que je vais faire en... En fait, ça, il va avoir double option. Celui-là, il va être aussi pour moi personnellement quand je remonte parce qu'à l'heure actuelle où quand je vais dans le nord, en fait, je lâche de la famille. Et c'est cool, hein, petit, hein, c'est cool de temps en temps, mais par contre, tu vois, quand là je suis 2 semaines c'était trop. Donc il me faut vraiment un pied à terre aussi. Et ce bien-là, en fait, va être exploité en LCD. Ça va être le tout premier. Donc je suis en train de bien me renseigner comment je peux vraiment tout automatiser. Parce que je vous rappelle, mais je suis à plus de 8 heures de là où j'investis. Pour de la location longue durée, il n'y a pas de problème. Par contre, pour de la courte durée, je pense qu'il va y avoir quand même une petite transition. Donc ça, c'est des choses que je pense qu'ils vont passer. Alors déjà, l'immeuble de rapport, c'est sûr et certain, ça sera pour 2022. J'ai demandé et ça arrange aussi le vendeur que ça se passe la signature en 2022. Moi, ça m'arrange au niveau de la compta, tout simplement. Parce que si j'achète avant 2022... je vais devoir payer des frais de comptabilité pour rien. Donc, 2022, c'est parfait. Par contre, le logement, l'appartement, pareil. J'ai pas trop de date parce qu'en fait, je vous explique un peu la situation. C'est un bien qui est en vente par notaire et la personne est sous tutelle. Donc, automatiquement, sous tutelle, ça prend toujours 20 000 ans. Donc, pour l'instant, je suis toujours en stand-by. J'ai toujours pas de date officielle. Mais en tout cas, voilà, c'est bloqué pour moi, normalement. Sinon, à part ça, les amis, le marché a augmenté de ouf. Le marché a augmenté de fou. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé que la dernière fois, à l'heure actuelle, on est sur un marché pour vendeurs. C'est-à-dire que si tu veux vendre, je pense que c'est le bon moment. Et je vais te donner un retour du terrain. J'ai acheté un logement à un immeuble il y a 2 ans, ouais, 2 ou 3 ans. Et je vous avais dit que ça avait déjà pris de la valeur. Alors j'avais spéculé un peu et en fait quand je suis retourné chez moi, j'ai fait passer des agents immobiliers pour estimer la maison, enfin l'immeuble. Et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué les amis. J'ai acheté le bien en 2019, il me semble en décembre 2019, je l'ai acheté 92 000. J'ai fait aucun travaux. Alors, il y a un budget de travaux qui avait été qu'on allait faire, sauf que le problème, c'est que les locataires sont toujours là. Ils voulaient partir, maintenant ils ne partent plus. Bref, c'est pas la question. Donc, j'ai fait absolument aucun travaux. Et bien, ce bien-là, a été estimé 2 ans plus tard à 112 000. 112 000, 20 000 balles. J'ai fait absolument aucun travaux, rien du tout. Donc c'est quand même impressionnant. La montée des prix en à peine 2 ans, 20, ouais, franchement on est presque sur du 20-25%. Et ça se ressent aussi sur tout le marché, hein. Sur tout le marché, y a des choses que jamais j'achèterai et qui se vendent, alors que ça fait une renta de merde. Donc franchement, c'est quand même impressionnant. Or, je pense que ça va... Là, ça y est, ça va se tamiser un peu, je pense. En plus, on verra, mais par rapport aux actualités immobilières, il y a des choses qui vont se répercuter aussi sur le marché français. Mais bon, voilà, je m'étais pas foiré quand je vous ai dit ça. On est vraiment, là, c'est vraiment un retour du terrain. Il n'y a pas de spéculation. C'est véridique. C'est chiffres à l'appui, estimation à l'appui. Donc voilà. En tout cas, les amis, j'espère que vous avancez aussi de votre côté. Que là, ça me fait plaisir. J'ai reçu des messages sur Instagram des personnes qui ont acheté leur pro. Alors, il y a une personne qui a acheté une colocation sur le secteur de Rennes. Félicitations à toi. Il y a une autre personne qui a acheté un immeuble de rapport du côté de Rouen. Donc franchement super, super, ça me fait hyper plaisir. Merci pour les retours, merci pour les messages d'encouragement que vous me donnez. Et ça me fait hyper plaisir que le podcast y soit écouté et surtout qu'il y a cette petite interaction, tu vois. Ça, je kiffe. Merci beaucoup les amis. Bon, trêve de bavardage, on va passer directement à l'actualité immobilière de la semaine. Alors... Y a pas, j'ai pas trouvé grand-chose de percutant, mais voilà, on va regarder un peu ce qu'il y a. Alors, je vous parlais un peu de cet impact qu'il pouvait avoir sur l'immobilier français. Et l'information sort de Capital. On nous dit que, alors le titre, un dégonflement de la bulle de la Chine à la France. La chute des prix, mais jusqu'au où? Alors, en gros, on nous explique dans cet article, un dégonflement de la bulle immobilière est à craindre en Chine. Et en France, une simple reconnexion entre les prix de l'immobilier et les revenus des ménages justifierait une baisse d'environ 20%. 20%, c'est quand même pas mal, hein? T'imagines? Alors moi, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Faut se positionner. En fait, ici, on est sur un podcast d'investisseurs, mais il faut se positionner aussi en tant que primo-accédant ou ménage qui achète sa RP. Eh ben, l'immobilier fait que monter. Il fait que monter, sauf qu'il n'y a pas de corrélation entre les prix de l'immobilier et les salaires. On voit que les salaires, ils augmentent tout doucement, légèrement. Et on voit que l'immobilier, c'est en plein boom. Ces dernières années, il y a eu cet engouement pour l'immobilier, autant pour les investisseurs qu'autant pour la RP. Les gens veulent de moins en moins payer de loyer. Ils veulent de moins en moins perdre cet argent, le balancer dans le vide. Et de plus, les taux et l'emprunt bancaire est facilité. C'est-à-dire que maintenant, avant, et nous on a vraiment de la chance parce qu'avant, tu avais des taux à 5-6%. Jamais de la vie. Jamais de la vie, tu aurais pu croire que tu aurais eu des taux sur 25 ans à 1,05. Jamais de la vie. Imagine-toi, t'aurais dit ça à un banquier il y a 20 ans, 10 ans, même 10 ans en arrière, on était aussi un peu plus haut. Mais il y a 10 ans en arrière, tu vas voir ton banquier, tu lui dis, écoute, fais-moi un taux de 1,05 sur 25 ans, je peux te dire qu'il va te rire au nez. Il allait te rire au nez, c'est sûr et certain. Donc il y a carrément un dérèglement au niveau de l'évolution des salaires. Et le prix de l'immobilier. L'immobilier a trop augmenté. Et encore, il aurait augmenté dans les grosses. Tu sais, ça aurait été vraiment cantonné à l'immobilier de luxe. Ok. Mais là, le problème, c'est que ça ne s'est pas cantonné à l'immobilier de luxe. Ça englobe toutes les facettes de l'immobilier. Que tu achètes ta RP, que tu achètes un appartement, que tu es en secteur tendu, que tu es en secteur à l'aise, que tu achètes dans une ville de 3 000, 4 000, 5 000. Que tu achètes dans une ville de 100 000, tout est régi par cette augmentation. 20%, alors c'est pas 20% partout sur tous les territoires qu'on se le dise, mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation. Et je reprends encore mon exemple, mais chez moi, c'est pas un secteur patrimonial, c'est pas on est sur une ville plutôt standard, hein, 30-40 000 habitants. C'est pas une ville ouf, c'est une bonne ville, mais c'est pas un truc de dingue. Et pourtant, le prix, il a augmenté de dingue. Il y a chez moi, il y a des appartements. Alors chez moi, c'est plus un secteur à maison et compagnie, mais il y a des appartements qui se vendent 200 000 balles. À 200 000 balles, les amis, je vous jure que j'investis pas chez moi. À 200 000 euros, j'investis au minimum dans la métropole juste à côté, ou j'investis à Lille. Mais jamais de la vie, j'ai investi chez moi à 200 000 balles. Enfin, ça c'était l'actualité immobilière de Capital. On continue toujours chez Capital. Comment convaincre les banques forcées d'être plus sélectives? Je vous en ai parlé la dernière fois. Durcissement de la réglementation, encombrement des agences bancaires, le frein à la concurrence. Retrouver les conseils pour décrocher malgré tout un taux de crédit compétitif. Alors on nous explique qu'en gros, avec ces nouvelles recommandations qui sont gravées dans le marbre, ben, il n'y a pas 1000 solutions pour pouvoir avoir un taux de crédit compétitif et surtout obtenir un prêt. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir gonfler le montant de votre apport personnel. Je vous en avais parlé. Avant, on pouvait financer à 110 sans problème. Maintenant, c'est vrai que je ne dis pas que ça se fait plus. Par contre, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué et que l'apport de 10% du montant de l'acquisition, ben, il va commencer à devenir obligatoire, entre guillemets. Donc, ensuite, on doit présenter au banquier son meilleur profil avant d'aller démarrer. Mais ça marche pour tous, les amis. Que vous êtes investisseur, que vous achetez votre RP, 3 mois minimum des comptes clean, clean, clean. C'est un passage obligatoire. Avant d'aller voir votre banque, vous devez mettre au clair tout vos comptes. Parce que les restos à foison, les dépenses sur Betclic et j'en passe, les casinos, les jeux, les FDJ, les crédits auto et compagnie, tout ça, les amis, c'est miettes. Si vous voulez obtenir votre prêt, ou du moins faciliter l'obtention de votre prêt, c'est indéniable. Votre compte, il doit être nickel chrome. C'est-à-dire que je dois avoir du reste à vivre à la fin du mois, de l'épargne mise de côté tous les mois. Je dois avoir aucun agio, aucun découvert, que des comptes nickel. C'est obligé. Ensuite, prévoyez un délai supplémentaire sur le compromis de vente. Ça s'est vérifié aussi. Les banques mettent de plus en plus de temps, depuis le Covid, mettent de plus en plus de temps à étudier un dossier, à monter un dossier. Que ce soit télétravail, que ce soit le boom des transactions immobilières aussi, ben, faut savoir que les banques, elles sont débordées. Donc, si tu mets une proposition à 1 mois, ça va être vraiment compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Donc, n'hésite pas, va chercher le compromis long. 3 mois, c'est le minimum. C'est le minimum. Ensuite, une autre solution que vous pouvez faire pour les personnes qui ont de multiples crédits, ça serait de regrouper tous vos crédits pour abaisser le taux d'effort. C'est quoi le taux d'effort? Le taux d'effort, c'est le HCSF qui nous a pondu ça. Le taux d'effort de remboursement, mensualité d'assurance incluse. Je le répète, mensualité d'assurance incluse. Eh ben, le taux d'effort est plafonné à 35% du revenu net pour une durée maximum de 25 ans dans l'ancien. Au début, ça a pénalisé pas mal de monde. Maintenant, voilà. Au début, ce n'était pas obligatoire. Le coût d'assurance, il n'était pas inclus automatiquement dans le calcul, dans le calcul du taux d'endettement. Et certains arrivaient à valider de multiples dossiers. Maintenant, voilà, c'est des règles qui sont devenues obligatoires, comme je vous ai dit là, il y a 2 semaines. Ça va être de plus en plus compliqué. Donc, il faut essayer de trouver des petits stratagèmes pour diminuer ce taux d'effort. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as 4 crédits avec chacun une assurance différente, à un moment, bah écoute, il faudrait peut-être tout regrouper et avoir une seule mensualité. Ça serait peut-être plus bénéfique pour toi, tu gagnerais peut-être un taux d'effort. Ensuite, on nous dit qu'il faut faire jouer la concurrence pour notre assurance de prêt. Alors là, je ne vais pas vous mentir, il y a deux écoles. La première école, c'est pour les investisseurs. Pour la deuxième école, on est sur les l'achat pour de la RP. Pour les investisseurs, faire jouer la concurrence pour l'assurance de prêt, c'est pour moi, je pense que c'est un peu plus problématique parce que les prêts vont être de plus en plus durs à obtenir. Donc on est là pour essayer de construire une relation de long terme avec notre banquier. Et si tu lui mets un coup de couteau dans le dos, parce que clairement c'est ça, il va t'obtenir ton prêt, et puis toi tu vas dire ok, franchement, ton assurance de prêt, elle est beaucoup trop chère, et je bouge ailleurs. Certes, c'est vrai que l'assurance bancaire de ta banque, elle sera plus chère que si tu fais une délégation d'assurance. Par contre, l'inconvénient majeur à ça, c'est que bah derrière, va pas le revoir. Si tu as besoin d'un autre prêt, va pas le revoir. Parce que c'est clair et net, il va te dire non. Il va te dire non. Moi, je te parle, regarde, moi j'ai un prêt à la LCL. Au LCL, j'ai pris mon assurance, alors j'ai pris une assurance pour moi, j'ai pris mes deux PNO pour les deux biens que j'ai, et j'ai quoi d'autre chez eux? J'ai une autre assurance, mais je sais plus ce que c'est. Bah, tu vois, la preuve, c'est que j'ai des choses que je sais, je n'utilise pas. Mais le problème, c'est que voilà, je sais que là, je vais aller me faire financer un autre achat. Alors certes, je paye plus cher. Ma PNO, je vais te dire combien je paye. Ma PNO par logement, elle me coûte 14 balles. Énorme! Énorme 14 balles. C'est beaucoup trop. Je suis d'accord. Par contre, va faire une délégation d'assurance. C'est vrai que peut-être tu vas payer, allez, 7-8 balles ta PNO. Mais derrière, est-ce que c'est ta délégation d'assurance qui va te financer un autre achat immobilier? Est-ce que c'est ta délégation d'assurance qui va te financer 120 000 balles pour acheter un autre logement? Bah, je pense pas. Je pense pas. Est-ce que pour toi, c'est perdre de l'argent réellement que de payer plus cher là maintenant que de faire une délégation d'assurance pour payer moins cher? Alors que derrière, tu sais que tu seras blacklisté. Tu vas retourner voir ton banquier et va dire écoute, je t'ai financé le premier, on était OK sur les clauses, et toi, dès que t'as pu, t'as fait une délégation d'assurance, tu m'as tout viré. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va te refinancer? Alors, il va pas te le dire comme ça, hein, je te rassure. Il va te dire, ah, écoutez, non, ah non, ça marche pas. Ouf, ah non, au niveau, non, ça rentre pas dans notre politique. Il va te le dire comme ça. Donc, clairement, moi, sur ça, pour la délégation d'assurance, je suis pour les investisseurs, hein, je parle bien pour les investisseurs, moi, je suis pas d'accord. Par contre, pour les propriétaires de leur RP, oui, totalement, délégation d'assurance. Alors, après, c'est pareil, hein, si tu as une optique d'investir et compagnie, et que voilà, tu as trouvé la bonne banque, ok. Maintenant, si voilà, ton objectif de vie, c'est d'acheter ta maison et tu as envie de payer moins cher par mois, oui, fais la délégation d'assurance, tu seras gagnant. Donc ça, c'était les petits conseils de capital pour essayer de nous faire obtenir notre prêt immobilier. Bon, on continue avec Le Figaro. Et si vos plus-values immobilières étaient toutes exonérées d'impôts? Le titre est plutôt racoleur. Là, clairement, je peux te dire que j'ai cliqué juste à cause du titre. Alors, on nous dit que un député La République En Marche propose d'exonérer les plus-values sur les cessions d'un bien autre que la résidence principale, mais sous condition. En gros, c'est une mesure qui aimerait bien être mise en place par Romain Gros. En fait, je vais vous expliquer pourquoi, et je trouve que c'est pas débile comme raisonnement. Alors, on nous dit qu'en gros, voilà, les résidences principales sont exonérées de plus-value, ça tout le monde le sait. En revanche, les plus-values sur les résidences secondaires, eux, sont imposables. Et ce qui va motiver les propriétaires à conserver leurs biens sur une longue durée pour pouvoir adoucir la taxation. Et au contraire, en fait, pour les inciter à remettre leurs propriétés sur le marché, ce député, donc Romain Gros, lui propose d'exonérer la plus-value, propose d'exonérer d'impôts ses plus-values. Par contre, il pose certaines conditions. La première, c'est moins de 25% de cette plus-value doit être réinjectée dans l'économie réelle. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, cette somme doit servir dans la création, dans une reprise d'une entreprise individuelle, quelle qu'en soit l'activité, ou doit être apportée au capital d'une société que possède le contribuable. en gros, et ça dans un délai d'un an. Mais bon, faut savoir que je suis pas sûr que tout le monde et tous les propriétaires de résidences secondaires aient l'âme d'un entrepreneur. Donc déjà, ça c'est un premier point qui risque d'être problématique. Le deuxième point, c'est que la plus-value ne doit pas être supérieure à 250 000 euros. Bon, 250 000 euros, on est quand même assez large, je trouve ça plutôt raisonnable. Par contre, voilà, est-ce que ça va être réellement accepté? Faut savoir que c'est une proposition qui va être soumise au vote des députés, membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et qui vont délibérer. Et je pense qu'ils sont actuellement en train de l'examiner, mais en gros, ça sera voté, il me semble, pour 2022. Donc voilà, bah, écoutez, en attendant les propriétaires de résidences secondaires, je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de grandes villes qui ont décidé de surtaxer les résidences secondaires, comme l'autorise la loi depuis de 2017. Donc à Paris, Lyon, Bordeaux, maintenant c'est au tour de Marseille d'avoir adopté en fin septembre une hausse de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, et tout ça pour les remettre dans le circuit normal de la location. Voilà les amis, propriétaires de résidences secondaires. Santé. Ah ouais les amis, je fais une petite aparté sur l'actualité immobilière, mais c'est parce que je suis au bureau là, je suis posé à mon bureau, et en fait j'ai eu mon CGA, donc c'est un organisme de gestion agréé, qui est là pour vérifier les pièces comptables, etc., pour vérifier la comptabilité. En gros, tu as ta comptabilité et au-dessus, tu as le CGA. Faut savoir que c'est pas obligatoire, hein, mais il y a des avantages, etc. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard. Et en fait, j'ai été tiré au sort pour pouvoir faire un petit contrôle. Et en fait, j'ai le petit papier devant moi et puis bon, je me suis un peu chié dessus. Parce que c'est pas la folie. C'est pas la folie. À ce qu'il paraît, je fais pas bien ma comptabilité. On nous dit qu'en gros. Vous devez... Alors en fait, oui, je vois où est le problème. La centralisation n'est pas possible. Vous devez passer par une écriture comptable par transaction pour éviter le rejet et le rejet du FEC en cas de contrôle fiscal. Mais alors, c'est pas ça le plus terrible, mais c'est une petite phrase qui a marqué derrière sur le compte rendu qui est excellent. Et on nous dit en gros, où est-ce que c'est marqué? Ah si si. Alors. Appréciation des pièces justificatives examinées. Doute sérieux sur les pièces justificatives, assiette imposable sur laquelle porte le doute. J'ai l'impression d'être un grand délinquant. Waouh! Ah non, non, les amis, c'est quand même bien. Si jamais vous n'avez pas de CGA, je vous conseille d'en avoir un. En fait, il y a divers avantages à avoir un CGA. Le premier, c'est que ils vont contrôler ta comptabilité. Donc, si je me doute bien que peut-être que toi tu fais ta comptabilité tout seul, mais moi je passe par un cabinet comptable et ce cabinet comptable fait ma comptabilité pour moi. Le problème c'est que peut-être que eux vont se tromper et le problème c'est que c'est toi le responsable. Donc le CGA, Centre de gestion agréé, est là en fait pour contrôler ta comptabilité. Et il y a des avantages en fait si tu te fais contrôler par un CGA. Il y a quand même un risque moindre. Alors le risque est toujours là, hein, mais il y a toujours un risque moindre de te faire d'avoir un redressement fiscal, d'être contrôlé par les impôts, etc. Mais voilà, ça n'exclut pas le risque d'être contrôlé. Ce qui est bien, c'est que voilà, tu vois, moi, j'ai. Et pourtant, ça fait déjà quelques années que je fonctionne comme ça. C'est quand je fais mes retours dans le Nord, je sais exactement où est le problème en fait. Le problème que j'ai là actuellement, c'est que j'utilise ma voiture personnelle. Par exemple, là, quand je suis remonté dans le nord, je suis remonté pour deux choses. Pour voir la famille et aussi pour le business. Le problème, c'est que comment tu fais la part des choses entre utilisation de la voiture de manière personnelle et l'utilisation pour le business? C'est-à-dire que moi, là, là où porte le doute, c'est par exemple au niveau de l'essence. Quand je mets un plein d'essence, bah voilà, je mets le plein d'essence. Où est la différenciation entre l'utilisation de la voiture de manière personnelle et l'utilisation de la manière business? Et le problème, c'est que voilà, moi je mets tout, tu vois, par exemple, mon péage, je mets tout sur sur mon LMNP. Je mets mon essence, les indemnités kilométriques, et je mets tout sur mon activité de LMNP. Et je sais que c'est problématique, notamment au niveau par exemple, du stationnement. J'ai pas de justificatif. Donc là, je sais que c'est un problème. Alors, je vais essayer de régler ça, surtout sur l'année prochaine. Mais comme quoi qu'il faut faire attention, les amis. La comptabilité, on fait pas n'importe quoi avec. Surtout que un redressement fiscal, je peux vous dire que ça doit faire mal. J'en ai pas vécu personnellement. J'ai quelqu'un de ma famille qui en a vécu un. C'est assez hardcore. Donc, faut faire attention. Soyez clean sur la comptabilité, c'est hyper important. Voilà, c'était la petite aparté, c'est parce que j'ai vu le courrier sur le bureau. Donc, je voulais vous en parler. Allez, on va parler cette fois-ci d'un super Pinel. Un super Pinel en gestation pour relancer le programme 9. Emmanuel Wargon va présenter la semaine prochaine les nouveaux contours du dispositif fiscal. Emmanuel Wargon, à force d'en parler, les amis, je pense que vous commencez à la connaître. C'est la ministre déléguée en charge du logement. Et elle avait laissé entendre une sorte d'un super Pinel qui pourrait succéder au Pinel de base. Alors, je ne me suis pas réellement penché sur c'est quoi son super Pinel. Par contre, je vois que bah, on garde l'avantage fiscal qui va rester pareil. Par contre, je vois qu'on va passer sur la RT 2020 qui va succéder à la RT 2012, on va augmenter les performances énergétiques de 30%. Tout ça, c'est cool. Par contre, automatiquement, ça va contraindre les promoteurs à utiliser les matériaux spéciaux pour pouvoir faire de la RE 2020. Automatiquement, ça va chiffrer beaucoup plus cher. Je sais pas. On verra quand ça sera réellement sorti. On en reparlera de ce super Pinel. Ensuite, la fortune immobilière de Trump a fondu de moitié en 6 ans. Pour la première fois en 25 ans, l'ex-président quitte le classement des 400 premières fortunes américaines. Mais vous en faites pas pour lui, les amis. Il lui reste quand même un patrimoine de 2,5 milliards de dollars. Et comment on en est arrivé là? Lui qui a perdu 600 millions de dollars depuis le début de la pandémie, tandis qu'un bon nombre de milliardaires ont vu leur patrimoine décoller. À en croire l'analyse de Forbes, s'il a fait moins bien que les champions des nouvelles technologies et des crypto-monnaies, c'est que le magma n'a pas su se diversifier et sa fortune repose très largement sur de l'immobilier. Bah voilà les amis, tout est dit. J'ai résumé le cas Trump en une phrase. Diversification. La majorité de la fortune de Trump, tout le monde le sait, c'est l'immobilier. Trump Tower, etc., etc. Les casinos, etc., etc. Le problème, c'est que voilà, si tu restes sur un pilier, bah, ta fortune, elle va fluctuer en fonction des crises. En 2008, sa fortune a dû baisser, c'est remonté. En 2020, en 2021, c'est baissé, etc., etc. Si tu ne diversifies pas ton patrimoine, si tu ne diversifies pas ta fortune, automatiquement, tu vas être plus enclin aux variations de ton actif immobilier, de ton actif financier, que ce soit l'immobilier, la bourse, etc. Maintenant, si tu diversifies, alors maintenant, attention, on va pas se faire de mouron pour lui. Un jour ou l'autre, ça va augmenter, ça va baisser, etc., etc. Donc, don't worry pour Trump. Je pense que. Et puis après, voilà, 2,5 milliards, on est encore pas mal. Tu peux quand même investir. On va dire que je pense pas que tu sois bloqué par les banques, tu vois. Donc voilà, c'est pas à plaindre. Allez, on continue avec la dernière actualité immobilière. Un an de prison ferme requis contre le marchand de sommeil de Grigny 2. Dominique F. est accusé d'avoir profité de la vulnérabilité de famille pour les contraindre à la cohabitation dans une immense copropriété de l'Essonne. Le ministère public avait requis 2 ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, 100 000 euros d'amende et la confiscation des biens visés. Alors, on nous explique que c'est un dossier qui est plutôt compliqué parce qu'on veut faire de Dominique F. Le bouc émissaire, etc., etc. Alors, Grigny 2, je ne sais pas si vous savez, mais en gros, c'est une copropriété qui a fait faillite. Donc, c'est sorti de terre dans les années 60. C'est une copropriété qui a fait faillite en raison notamment de charges impayées. Et en fait, elle accueille désormais de nouveaux occupants toujours plus pauvres et toujours plus fragiles. Et donc, en fait, on nous explique que ce cas, donc de Monsieur Dominique F, on veut en faire un bouc émissaire, selon son avocat, bien sûr. Mais quels sont les faits reprochés à Dominique? Alors, Dominique est accusé d'avoir casé jusqu'à 16 personnes, non, 15 personnes, pardon, dans un F6, où des mères isolées avec leurs enfants côtoyaient des jeunes hommes inconnus dans des conditions indignes. Humidité, installation électrique dangereuse, cafard. Bref, tout ça, c'est une méga colocation. Imagine-toi un F6, donc 5 chambres ou 6 chambres. Bref, ça change pas trop la donne. 15 personnes, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Alors après, est-ce que. Alors moi, ce truc, c'est. Ce truc-là, tu vois, pour moi, ça. C'est honteux. C'est honteux, tu vois. J'ai même pas les mots pour te dire tellement ça me dégoûte. C'est quand même grave d'en arriver là parce que je me dis. Ça aurait pu être ma mère, tu vois. Ou ça aurait pu être quelqu'un de ta famille proche. Comment tu le prendrais? Parce que là, ça te touche pas. Hein, parce que tu te dis peut-être que, voilà, c'est des gens que je connais pas, c'est des. Bref. Mais moi, ça me touche. Je trouve ça dégueulasse d'en arriver là. Et je sais pas comment on en arrive à un tel point de cupidité. C'est quand même affolant. Moi, je serais coupable. Je le jugerais coupable. Enfin, ça reste que mon avis. Allez, on va passer tout de suite aux questions de la semaine. Questions de la semaine, j'en ai deux. C'est déjà pas mal. Je vais me faire un grand plaisir de vous répondre, les amis. Alors, salut Anthony, petite question. Que mettre en place lorsque tu commences à essuyer des refus de prêt ayant comme motif que vos revenus locatifs dépassent ceux de mes salaires? Je viens d'avoir un retour négatif, non pas du pôle immobilier de ma banque, mais du crédit logement. L'hypothèque, c'est non. Ils sont d'accord, mais me demandent un apport trop conséquent. J'attends ta réponse. Alors, j'ai pas pris ton nom, mais écoute, pour moi là déjà, j'ai une incompréhension. C'est que tes revenus locatifs dépassent ceux de tes salaires. Pour moi, c'est OK. Alors, même si tu gagnes pas énormément, ça veut dire que tu dégages quand même pas mal au niveau de ton immobilier. Et l'hypothèque, c'est non. Ils sont d'accord de me faire une hypothèque, mais me demandent un apport trop conséquent. Alors, je ne sais pas de quel type d'apport on parle. Par contre, à un moment, mon ami, tu es obligé. L'apport, il est obligatoire. Vu que tes revenus locatifs dépassent ceux de tes salaires, je pense que tu n'es pas un débutant. Tu as dû avoir un peu d'actifs à ton passé. Donc, je pense que clairement, tu n'es plus dans la phase débutant et que là, l'apport va devenir quasiment obligatoire. Alors, moi, mes conseils, bah déjà, même si voilà, on va respecter un peu ce que tu me demandes, je te dirais, c'est de multiplier les banques. Et tu ne te prends pas la tête, tu expliques directement ton cas, tu leur dis que voilà, les cautions, ça passe pas, donc tu demandes l'hypothèque directement. Sinon, ce que tu peux faire, c'est demander des contacts pour venir sur recommandation. Il y a des groupes Facebook qui existent pour ça. Tu postes une demande, il y a bien quelqu'un qui va te répondre, je pense. Sinon, tu vas avoir un maximum de banques, tu vas avoir un maximum de courtiers afin de maximiser tes chances. Et surtout, il ne faut pas te décourager parce que on voit souvent des mecs faire 20 banques avant d'y arriver. Donc, il faut voir un max de banques jusqu'au 8. Et l'hypothèque, elle est obligatoire. Et si tu as besoin, mets un apport. Alors, bien sûr, si tu veux faire un prêt de 100 000 et qu'on te demande un apport de 50 000, effectivement, il y a quelque chose qui joue pas. Mais par contre, voilà, si tu fais un emprunt de 100 000 et qu'on te demande un apport de 10-15 000, pour moi, c'est pas déconnant. Quand t'es plus débutant, c'est pas déconnant. À un moment, si. Tu sais, ça marche au scoring bancaire. Hein. Si ton dossier, voilà, t'as le taux d'endettement, il est dépassé, tu coches plus les bonnes cases pour avoir un prêt à 110, bah, il faut bien ouvrir les vannes de l'autre côté. Donc, il va falloir que tu mettes un apport un peu plus conséquent. Il va falloir que tu joues la relation vraiment gagnant-gagnant. Donc, pour moi, l'apport, à un moment, il commence à être obligatoire. Après, est-ce que toi, tu es prêt à mettre un apport? Et puis, là, si t'as pas d'apport, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que si tu arrives à décaler. Alors, bien sûr, après, je sais pas, je connais pas ton salaire. Je connais pas ton salaire. Si tu me dis que tu gagnes 800, effectivement, c'est assez simple à faire. Par contre, si tu me dis que tu gagnes 2000 et que tu as 2000 euros de loyer, de revenus locatifs par mois, Voilà, effectivement, là, on est quand même plutôt assez bien lancé. C'est pas la folie, mais c'est pas non plus le début. Si t'as pas de quoi mettre un apport à ce niveau-là, c'est que t'as pas compris quelque chose. Voilà. Écoute, j'espère avoir répondu à ta question. Je pense que c'est pas la réponse ultime à laquelle tu t'attendais, mais c'est la vérité. Voilà. Deuxième question de la semaine. Bonjour, question de débutant. Quel est l'intérêt? Ah bah, et ça concorde bien avec la question juste avant. Et donc ça va faire un sujet assez bien détaillé. Alors, question. Quel est l'intérêt d'un apport personnel dans un investissement locatif? Mon banquier ah, et celle-là, elle est excellente. Mon banquier m'incite à garder l'argent comme preuve de solidité financière et de faire des crédits entiers pour investir. Les banques suivent facilement et... Alors, j'ai pas compris. Les banques suivent facilement ainsi et l'investissement rend l'argent. Merci pour vos conseils car je suis perdu. Écoute, j'ai pas totalement compris ta question à la fin. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la personne qui m'a posé la question juste avant, il faut que je retrouve le nom, il aimerait bien ton coup. Il aimerait bien ton banquier. Alors, pour moi, là, clairement, t'es tombé sur un banquier en or. Et pour une fois, franchement, s'il te propose un investissement à 110, c'est-à-dire que voilà, ton investissement, tu mets 0 euro à l'intérieur, bah écoute-le. La question se pose même pas, écoute-le. Maintenant, c'est logique. Le locataire rembourse ton emprunt et le reste t'apporte du cash. Mettre de l'apport au début, ça n'apporte rien parce que le surplus de cash obtenu, parce que voilà, l'échéance de prêt, elle sera certainement plus basse. Mais en gros, ça va servir en partie à te renflouer ton apport. Donc en gros, tu n'as aucun intérêt. Et si tu as un coup dur dans la vie, il vaut mieux avoir de l'argent dispo sur un compte que dans ton immeuble. Imaginons, je te dis une bêtise. Tu as acheté 100 000 et tu avais 10 000 euros d'argent de côté et tu as mis les 10 000 euros en apport. Ok? Au lieu de faire un emprunt 110, tu as fait un emprunt 100 plus les 10 000 euros de frais de notaire. Bon, c'est 8 000, mais on va arrondir 10 000. Demain, donc tu viens d'acheter, tu as utilisé ton apport et demain, tu as vraiment un coup dur. Tu as vraiment besoin d'argent et tu peux compter sur personne. Rien du tout. Il vaut mieux que tu aies l'argent disponible sur ton compte ou dans une maison, dans une bâtisse que tu devrais revendre en urgence pour récupérer une somme. Moi, je pense qu'au tout début, surtout quand tu es un peu léger au niveau épargne de précaution, il vaut mieux avoir cet argent disponible et le garder. En plus, quand tu vas commencer à investir, automatiquement, si tu es un peu malin, tu négocies vite fait un petit différé de prêt, peut-être 1 an, 6 mois, l'argent, tu le mets de côté, tu ne le touches pas. Tu touches des loyers, en attendant, tu mets vraiment de côté, etc., etc. Enfin, tu vois, il y a un petit jeu, il y a une mécanique à mettre en route. Et plus tu vas faire d'immobilier, et plus tu vas générer de cash, plus tu vas générer d'argent, plus tu mettras de côté, et plus tu pourras investir en immobilier, en bourse, etc., etc. Donc voilà. Donc, écoute, si jamais, n'hésite pas à partager ton banquier. Je pense que dans ces temps difficiles, tu pourrais aider pas mal de personnes. Bon, les amis, j'espère que ce sera un petit épisode. Il n'y aura pas de sujet du jour, parce que ça fait combien de temps? On est déjà à presque 40 minutes, donc on va arrêter là. Donc j'espère que ce petit podcast vous aura fait plaisir. Là, clairement, vraiment, les amis, on va reprendre le podcast de manière hebdomadaire. Vous en faites pas. J'ai pas prévu avant décembre de repartir dans le Nord, donc zen. On va se reprendre contact toutes les semaines, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Mon Instagram, Anthony, ANTHONY-TRD. Vous pouvez m'envoyer vos questions, vos recommandations, si vous avez des avis sur un podcast que j'ai fait, si vous avez quelque chose à me dire, si vous voulez me faire des bisous, peu importe les amis, envoyez-moi un petit DM, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je réponds vraiment à tout le monde, hein. Je peux pas vous montrer mon feed de messages, mais je réponds vraiment à tout le monde. Donc n'hésitez pas, je suis pas méchant, je ne mords pas. Posez-moi vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà les amis, on fait partager ce podcast à tout le monde à tes amis, à ta famille, à qui tu veux. Fais liker, envoie des petits, des 5 étoiles, envoie un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!